Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 95e épisode de Torréfaction. Torréfaction, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre petite sélection de l'actu, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Bonjour, ça va Fasquille? Tu
décèdes
pas?
Un petit peu quand même. Là, en plus, j'ai dû couper le ventilo pour qu'on puisse enregistrer dans de bonnes conditions et je sens que ça va être très très dur.
Ah, de bonnes conditions pour les auditeurs, mais j'espère qu'ils apprécient le sacrifice humain.
C'est ça.
Parce que là, il y a liquéfaction des speakers.
En parlant de sacrifice, j'ai un disque dur qui vient de me lâcher. Merci la chaleur. Donc, ça fait toujours plaisir quand t'as plein de taf. Hein.
C'est bien. Je vous rappelle tous cette petite phrase importante. Le disque dur, c'est pas le problème, c'est de pas savoir quand s'il va lâcher, c'est de savoir quand est-ce qu'il va lâcher.
Ouais, donc faites des backups, heureusement.
Faites des backups. Et les SSD, parfois, on a des soucis aussi. Moi, j'ai moi-même un petit problème de mon côté. Donc, je ne voudrais pas faire de généralisation, mais je pense que la chaleur n'est pas étrangère à la souffrance informatique actuelle.
Tu m'étonnes. Allez, on y va tout de suite. Du coup, on commence par le gaming avec une grosse partie sur les auto-chess.
Ah, une grosse partie. Alors, en fait, on en a déjà parlé, mais quand j'en avais parlé, j'avais dit, salut, j'y ai jamais joué, j'ai rien compris, je sais pas ce que c'est. Et je me suis dit, bon, ah, c'est pas très professionnel, et tu me connais. Moi, ce que j'aime, c'est aller au fond des choses. Alors, avec mon ami Jean-Claude, bon, j'ai joué au truc un petit peu. Voilà, je tiens à m'excuser auprès de tout le monde. J'ai pas beaucoup écrit sur le site, mais par contre, je sais ce que c'est que auto-chess et comment ça marche.
Combien tu m'as dit, 30 heures déjà, c'est ça?
Alors, 30 heures sur la version de Valve, hein, uniquement.
Oh, ok, d'accord.
Donc j'ai essayé un petit peu les autres vite fait parce que tu comprends, il faut pouvoir parler de tout le monde. Oui. Alors, Auto Chess, parce qu'en fait je comprends pas ce qui s'est passé avec ce truc. Ça n'existait pas le mois dernier. Enfin, ça n'existait pas pour le grand public le mois dernier. Et là, d'un coup, c'est en train de rouler sur tous les autres styles de jeu. Enfin, pas du tout, parce qu'il y en a qui ne sortiront jamais de Fortnite, on est bien d'accord. Hein. Mais il y a plein de gens qui sont en train de se dire, mais c'est pas mal ce petit truc, et qui, deux heures après, se comprennent pas ce qui vient de leur arriver. Ils viennent de prendre leur première dose de crack. On a même notre premier geekzonien qui a fait genre une semaine dessus, et qui a fait genre, je viens de réussir à arrêter, je ne veux jamais y retourner, laissez-moi tranquille. Ah, il faut que je vous explique pourquoi justement c'est assez dangereux pour certaines mentalités, on va dire. Donc, auto-chess, c'est quoi? À la base, c'est le concept sur le papier, il est hyper simple. C'est des joueurs qui, il y a 8 joueurs par partie et chaque joueur achète des unités, les combine et utilise des synergies qui existent entre chaque unité. Chaque unité appartient à une catégorie, en fait, et ces catégories vont avoir des pouvoirs quand tu en mets certains nombres sur l'échiquier. Et après, une fois que tu as placé tout ça sur ton échiquier, justement, tu regardes la baston se dérouler, mais toi, tu n'interagis plus, c'est fini. Tu as fait ton boulot. En vérité, tout se passe avant, évidemment, dans la conception du truc. Si vous étiez fan des jeux d'échecs qui jouent tout seul au début des ordinateurs 16 bits et compagnie sur Amiga, c'est un petit peu ce genre de truc là, mais version XXL.
C'est quoi, c'est version genre Darkon en fait, c'est ça?
Non, parce qu'en fait, enfin, ça prend plein d'éléments en gros, mais si on oublie Dota et la façon dont ça a été construit à la base, le principe sous-jacent du jeu, c'est t'es entre le poker, le mahjong et le jeu d'échecs avec les petites pièces animées qui vont se bastonner toutes seules à la fin, si tu veux.
D'accord. Donc c'est plutôt du Uber metagame en fait.
C'est parce qu'en fait, il y a une grosse partie qu'on comprend pas au début du jeu, parce qu'au début on est obnubilé par les unités, qu'est-ce que je dois acheter, quels sont les rôles de chaque unité. Il y a des unités qui peuvent tanker les dégâts, il y a des unités qui vont être spécialisées dans l'attaque, il y a des unités qui font des dégâts magiques, etc. Donc il y a plein de trucs, quand on commence à jouer, il y a plein d'éléments à appréhender et on est un peu en panique les premières heures en se disant ouais, qu'est-ce qui se passe, la courbe d'apprentissage, tu vois, c'est un peu le mur de Varap au départ. T'es là genre les gars, j'ai des petits bras moi, laissez-moi tranquille. Donc il faut pas paniquer, c'est relativement simple. Il y a 2-3 tutos dans chaque jeu qui vous expliquent les bases, qui sont vraiment vraiment pas très compliquées, mais la ruse, le truc qui fait que on gagne ou on gagne pas, au-delà du côté complètement random du jeu, c'est l'économie. Et ça, c'est un truc que j'ai mis un petit moment à piger en fait, parce que l'économie, c'est ce qui va vous permettre, à chaque tour vous allez gagner des pièces d'or, et ces pièces d'or, en tout cas dans Dota Underlords par exemple, et ces pièces d'or en fait, vous allez en gagner gagner un nombre suivant plusieurs paramètres. Et au départ, bah ça, c'est mal expliqué partout. Donc, c'est assez pénible. Et je me suis fait avoir au début. Donc, sur le billet qui accompagne le podcast, je vous ai mis des liens vers les trois gros ténors du genre qui sont actuellement déjà disponibles et qui sont donc tous sortis comme des champignons après la pluie ce mois-ci. Donc, on a à la base de la base, le truc auquel jouent les mecs depuis, enfin, les hardcore, c'est le Auto Chess, qui est un mode de Dota 2 qui est sorti il y a plusieurs mois maintenant. Ce Auto Chess, il est fait par un studio qui s'appelle Drodo Studio, qui sont en fait des développeurs chinois. C'est eux qui sont à l'origine de tout ce bordel, on les remercie pas. Qui font eux-mêmes une version. Alors, ils se sont rencontrés évidemment avec Valve. Valve, comme je le disais dans le dernier podcast ou dans l'avant-dernier, je sais plus quand est-ce que j'en avais parlé, Valve leur a proposé de faire un truc ensemble, ils s'en sont pas entendus, et donc Drodo Studio fait son propre Auto Chess qui s'appelle Auto Chess, que vous pouvez déjà trouver sur iOS et Android. Il a des particularités dans le sens où déjà ils ont été obligés de refaire toutes les unités, d'avoir leur propre univers, etc. Mais dans la version mobile, c'est ce qu'il y a de plus complet aujourd'hui, puisqu'il y a déjà, ils ont déjà la boutique in-game évidemment, mais c'est que du cosmétique, hein, je vous rassure. Et c'est la version, les pros disent que c'est celle qui est la plus équilibrée actuellement, et donc c'est celle qui va sortir sur le Epic Store sur PC dans quelques semaines. On n'a pas de date exacte, on peut déjà s'enregistrer sur le site officiel. Encore une fois, il y a le lien directement dans le billet du podcast. Ensuite, le premier à avoir embrayé, c'est évidemment Valve, qui a bien senti la poule aux œufs d'or, étant donné qu'ils avaient plus de 300 000 joueurs simultanés assez vite sur ce mode. Je sais pas les chiffres, je vais peut-être dire une connerie, mais je sais plus si c'est le mode ou les débuts de Dota Underlords. J'ai un doute soudainement au moment où j'enregistre, pardon. Mais donc Dota Underlords, c'est la version peaufiné de ce mode Dota 2 que j'ai essayé. Le mode, il est vraiment, l'interface est pas faite pour ça, hein, donc c'est dégueulasse, on n'a pas envie d'y jouer. Dota Underlords, c'est pour moi actuellement le plus simple à appréhender, en fait. C'est celui qui est le plus visuellement le moins bordélique, même si au départ vous allez pas franchement être d'accord avec moi peut-être, mais c'est celui avec l'interface la plus simple à appréhender, et celle qui est la plus lisible, surtout dans les derniers patchs. Alors Valve patch à mort ce jeu, ils sont à donf dessus, et je crois qu'ils ont bien flairé l'opportunité, ils veulent pas se faire ravoir. Pourquoi je dis ça? Puisque sorti du bois, quel est le mec qui a déjà concurrencé et fait sa fortune en copiant tous les jeux de la Terre et n'a jamais rien inventé? Et bien évidemment, Riot avec League of Legends.
Bah tiens.
Mais alors eux, ils sont dans tous les bons plans, donc eux, ils arrivent, c'est pas du tout leur univers, hein, mais vu qu'ils ont toujours copié tout sur Dota 2, les mecs, ils se disent, petite réunion, tu vois, on va continuer de copier, donc ils nous sortent Teamfight Tactics, qui est un mode qui se rajoute, si vous avez League of Legends installé. Teamfight Tactics est déjà installé, a été patché et disponible depuis hier matin en Europe. Alors évidemment, comme ils ont des masses et des masses de joueurs, il y a déjà des queues pour jouer dans certains coins aux États-Unis. Les mecs, ils attendaient 15 heures pour faire une partie. Hein. Donc il y avait des files d'attente absolument immondes. Donc tout ça pour jouer à une copie assez pourrave pour l'instant, je dois dire, de Dota Underlords. Alors, vous allez m'insulter, les mecs qui sont fans de League of Legends vont me dire pas du tout, il est vachement bien, etc. Alors j'ai joué aux deux et j'ai jamais aimé le design en fait de League of Legends, donc déjà je suis biaisé, comment on dit en français?
Non, biaisé, c'est très bien.
Biaisé, c'est bien, tu vois, donc je suis pas vraiment client du truc. Alors en plus, il faut quand même visualiser que c'est un échiquier à la base, et si tu as déjà vu League of Legends, tu t'aperçois qu'en fait les persos, ils sont designés pour être toujours en biais, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais les persos, ils avancent vraiment en diagonale. Du coup, ils se font pas face déjà sur l'échiquier, c'est assez chelou comme positionnement. Alors ça marche quand ils sont en diagonale, ils ont changé, ils ont fait des hexagones au lieu de faire des cases carrées pour essayer de ruser, mais la visualisation, elle est chelou. Et ensuite, tout le reste est mal foutu par rapport au jeu d'origine. Alors j'ai fait donc une grande vidéo sur Twitch où j'explique les bases, ce qui sera quand même plus facile pour appréhender le jeu que je vous explique ça par podcast. La grosse difficulté, c'est que vous avez besoin de visualiser en permanence les alliances de vos personnages, comment ils sont, comment ils vont interagir, quelle pièce il va falloir acheter pour
les synergies.
Voilà, les synergies, c'est ça qui est important. Et puis, ce qui est important, c'est de savoir comme tu peux combiner tes unités pour les rendre de plus en plus puissantes. C'est-à-dire, tu peux prendre un chevalier, enfin, je dis n'importe quoi pour ceux qui connaissent pas les unités dans Dota, mais un chevalier plus un deuxième chevalier et un troisième chevalier niveau 1 vont faire un chevalier niveau 2, ok?
D'accord.
Et après, en fait, une fois que tu as trois niveau 2, ça va te faire un niveau 3. Donc, tu as besoin de savoir ce que tu as sur l'échiquier, ce que tu as en stock, etc. Et la blague, c'est que justement, cette information hyper importante, elle est trop cachée. Enfin, elle est dispo. On la voit hein, sur le truc de Riot, mais sur Teamfight Tactics, mais c'est vraiment trop fin, on va dire. Tu l'as pas sous les yeux en permanence. Enfin, tu l'as sous les yeux, mais c'est moins bien foutu. Mais le pire du pire, c'est les synergies qui sont sur le côté gauche. Et là, t'as la fenêtre de chat en fait. Donc, les synergies du haut, tu les vois pas. Si les gens sont en train de parler, tu peux pas regarder ton écran.
Super. Ça sent un truc sorti en rush quand même.
Un peu opportuniste. C'est ce que j'allais dire, c'est que là, tout le monde a balancé ces trucs, donc il n'y a même pas de ranking, par exemple, sur TFT pour l'instant. Donc voilà, c'est le début. Donc si vous n'aimez pas ce genre de jeu, je suis désolé pour vous, parce que là, je sens que les mecs, ils ont senti la poule aux odeurs, ils vont en balancer à toutes les sauces et ça va durer un grand moment. Et il va falloir vous habituer, hein, parce que je pense que là, on en a pour quelques années. Moi, je pensais être immunisé sur ce genre de trucs, parce que je n'aime pas les jeux avec du random, tu vois, le hasard, c'est ce qui m'a tenu à l'écart, c'est ce qui m'a sauvé de tous les Hearthstone et tous les jeux de cartes. J'ai touché à Magic quand j'étais jeune, et après j'ai fait ouais, ça a l'air dangereux quand même votre connerie. et là je me suis fait complètement avoir, parce que du coup tout le monde est à la même enseigne, il n'y a pas de problème de cartes que t'as pas pour faire ton deck, etc. Et il y a vraiment ce côté poker, et j'aime bien le poker, puisque tout le monde, voilà, tout le monde a les mêmes cartes, tu vois, tout le monde a les mêmes chances entre guillemets, et après tout le monde n'a pas les mêmes neurones, et là il y a une grosse partie réagir vite, anticiper, préparer le plus d'options possible dans le jeu, c'est vraiment très bien foutu. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'essayer le truc ou de ne jamais y aller. mais en tout cas, je vous ai mis tous les liens dans le billet du podcast. Vous avez de quoi vous occuper pour savoir ce qu'il en est et comment ça marche. Et il y a un mini guide chez Eurogamer qui détaille les trois possibilités actuellement si vous voulez essayer tout ça, qui est plutôt bien foutu.
Allez, on reste dans le gaming avec Time Spinner.
Alors ça va aller très vite parce que j'étais très long sur celui-là. Time Spinner, en fait, je vous ai juste mis un petit lien Wikipédia pour vous expliquer ce que c'est. En fait, je suis tombé en ce moment, il y a la GDQ, tu sais, le stream de la Games Done Quick, où les streamers s'enchaînent pour faire les jeux le plus vite possible. J'ai eu un run de Dark Souls 2 complètement fou hier, d'ailleurs. Dans ces runs-là, je suis tombé sur un jeu que je n'avais jamais vu, qui s'appelle Time Spinner. Moi, j'ai cru que c'était un vieux jeu au départ. Et en fait, j'ai compris que c'était un truc qui était sorti, en fait, en 2018, avec un look Super Nintendo, tu vois. J'étais là, genre, qu'est-ce que c'est? C'est, on dirait, un jeu Konami de l'époque. Et en fait, effectivement, c'est un truc complètement inspiré sur Castlevania Symphony of the Night, qui a été kickstarté il y a bien longtemps, qui devait sortir en novembre 2015, qui est finalement sorti en septembre 2018. Tu sais, c'est la grande époque des Kickstarters où les mecs savaient pas du tout combien de temps il leur faudrait pour finir le jeu. Ouais. Et donc voilà, c'est un truc où tu manipules le temps, c'est un des pouvoirs principaux du gameplay, et je l'ai trouvé très mignon. Il est pas inoubliable, mais comme il est disponible sur Switch maintenant, je me suis dit tiens, ça c'est un jeu que vous ne connaissez peut-être pas et qui m'a l'air extrêmement intéressant, surtout en mode portable.
Time Spinner, donc, et puis on passe à un autre jeu, Solasta Crown of the Magister.
Ouais, alors ça, c'est pas mal. Hein. Alors c'est un super accent, surtout qu'en plus, tout le monde nous fait chier avec là, ce titre, il est compliqué à dire, et c'est les Français qui font le jeu.
Bah tiens.
Alors les mecs, là, on nous aide pas beaucoup. Alors, Solasta Crown of the Magister, alors le Magister, hein, évidemment, en français, comme tout le monde sait, c'est un truc qui est fait par Tactical Adventures, et là, vous allez me dire, mais je ne connais pas ce studio de développement. Et oui, parce qu'il est tout nouveau, et il est fondé par Mathieu Girard, qui est un ancien cofondateur d'Amplitude. Ah. Amplitude, voilà, je crois qu'ils ont plus trop rien à prouver sur le marché. Ils ont fait quelques bons produits. C'est eux derrière la série des Endless Space, Endless Legends et compagnie. Et là, il a lancé les dés et puis il a réussi à avoir le financement qu'il voulait pour démarrer son studio. Il y a une trentaine de personnes maintenant déjà. Et il bosse sur donc Solasta, qui est un. On dirait pas le titre en entier à chaque fois, c'est trop chiant, je vous préviens tous. Et Solasta qui va être un RPG tactique. Alors il y en a certains, c'est un CRPG on va dire, mais apparemment on est quand même sur une grosse ambiance stratégique, tactique, les combats sont à l'honneur, avec pas mal de petites nouveautés qui moi m'ont intéressé, parce que d'habitude les jeux qui vont partir, on n'a même pas la date du Kickstarter, etc., on n'a pas la date de sortie, je me méfie un petit peu, mais bon, déjà il y a le pédigré des gens qui sont derrière le titre, et puis dans leur vidéo de présentation ils ont fait un dev diary qui est vraiment bien foutu. Il nous explique que là ils vont vouloir jouer avec la verticalité, tu vas pouvoir faire s'effondrer des murs sur les mecs qui sont derrière en train de se planquer, avec les sorts qui vont bien, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont dans leur tête, ça m'a l'air un petit peu fou, mais s'ils arrivent à mettre tout en place, je pense qu'on peut vraiment se marrer, surtout que c'est dans un univers hyper classique Donjons et Dragons, et moi j'adore ça. On n'a pas besoin de réinventer la roue, de changer des noms de classe pour moi, tu vois, tu me mets du nain, des clérics et tout, ça me va, il y a pas de souci. J'ai pas besoin d'avoir des trucs ultra nouveaux tout le temps, il y a un petit côté nidouillet quand tu retournes dans ce genre d'univers. Et bah écoutez, je vous laisse aller lire la news que j'ai fait cette semaine sur Geekzone avec justement les deux enfin il y a un trailer animé et un dev diary. Le trailer animé, il est pas magnifique, mais il est bien dans l'univers la team de bras cassés avec le warrior qui fait n'importe quoi, bien bourrin, etc. Il y a du potentiel. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Et ça faisait longtemps qu'on en avait pas parlé. Apex Legends lance sa saison 2.
Ah là là, il était temps. On n'en parlait pas parce qu'ils étaient un petit peu mous du genou, les gars de chez Apex. ça y est, on commence à avoir des infos, même s'ils n'ont pas tout balancé. Ils annoncent petit à petit ce qu'on va avoir. Là, il y a déjà le trailer qui est sorti en version un peu dessin animé, romancé de ce qu'ils veulent avoir comme ambiance dans le jeu sur cette saison 2. C'est très bien fait, c'est hyper dynamique et on découvre le nouveau personnage Watson, qui est un personnage féminin. Que j'ai marqué dans la conduite au tempérament électrique parce que j'ai beaucoup d'humour, parce qu'en fait elle a un espèce de générateur dans le dos, alors ça lui sert à mettre des barrières de défense mais aussi à réanimer les gens, parce que donc avec ses mains elle peut aussi faire défibrillateur et donc être une sorte de soigneur d'urgence. Alors tout le monde pensait qu'elle allait être gentille, mais apparemment elle a des finishes bien horribles où elle électrocute les gens, donc je pense que ça va être une ambiance un peu différente quand même. Et elle se sert une des nouvelles armes, c'est le Hellstar EMG qui vient directement de Titanfall 2, mais du coup dans la vidéo ils l'ont présenté avec, donc c'était pour aller plus vite. Et le Battle Pass évidemment sera entièrement revu, ça on en avait déjà parlé, pour être moins grindy avec des meilleurs skins. Ils font une tonne d'ajustements de gameplay avec des armes qui sont modifiées, plus d'attachment, histoire de rendre les armes de début de jeu, enfin les petits flingues, pour les rendre moins ridicules, on va dire. Donc il y a pas mal de choses qui se présentent. On n'a pas encore les infos officielles des changements sur la carte, sauf qu'il y a déjà un trailer qui a, on va dire, leaké, et je vous ai mis tous les liens qui vont bien dans le billet qui accompagne le podcast pour aller voir le trailer où j'ai mis trailer 1 plus 2. C'est très bizarre, c'est un mec qui a enregistré les vidéos sur sa Xbox en fait,
d'accord.
C'est très chelou, mais au moins il y a les deux vidéos dispo directement, alors que la deuxième vidéo n'est toujours pas dispo sur YouTube au moment où j'enregistre ce podcast, mais à mon avis quand vous l'écouterez ça sera peut-être déjà le cas.
Allez, on passe du côté des apps et avec une surprise de notre côté, puisqu'on en a parlé cette semaine et on s'attendait pas à ce que ça intéresse autant de monde,
c'est ça.
Le nouveau terminal Windows est désormais disponible en version preview. Pas grand chose à dire à part que c'est sorti. Ça reste un terminal qui pour le moment est quand même encore bien buggé. C'est une version alpha, hein. Enfin, ils l'appellent pas comme ça, ils l'appellent version preview, mais ça, c'est l'équivalent d'une version alpha. Le développement est encore vraiment pas très avancé, mais pour les curieux qui voudraient tester, le terminal est disponible sur le store Microsoft. Je sais pas si t'as eu l'occasion d'essayer.
Ouais, ça a pas changé ma vie pour l'instant, mais
il y a les onglets déjà, c'est pas mal. Ouais, pour les gens qui font plein de lignes de commande tout le temps.
Il est assez joli par rapport à ça, et puis surtout tu peux mettre plusieurs fenêtres différentes avec genre le terminal à l'ancienne, avoir la console PowerShell avec, etc. Donc ils ont compris qu'il fallait un nouveau produit un peu moins pourri que ce qu'ils ont, mais ça reste assez naze. Mais ce qui est rigolo, c'est que surtout, enfin, il y a des alternatives, hein, sur le marché, sans attendre que Microsoft se bouge, mais elles ont toutes des problèmes. Moi je suis halluciné parce que je pensais même que, comme je bosse pas sur Windows et j'ai pas besoin de ce genre de produit sur Windows, je l'avais jamais vraiment cherché, et alors que j'en ai un sur macOS qui est hallucinant. Il y en a plusieurs, mais il y en a vraiment un qui est, on va dire, sans équivalent, qui s'appelle iTerm, et ce iTerm sur macOS c'est une tuerie. Et j'ai regardé, je me suis dit, mais il doit bien y avoir des mecs qui ont fait un truc aussi modulaire avec plein de trucs sur PC, sur Windows, et pas du tout. Donc j'espère que Microsoft va nous faire un truc bien cool, parce que pour l'instant effectivement, quand t'as besoin de faire de la ligne de commande, t'es un petit peu désemparé, j'ai l'impression, sous Windows.
Tout le monde est sous PowerShell maintenant en fait, hein, de base.
Non, parce que même pas, parce que j'ai regardé sur ta news, il y avait pas mal de mecs qui balançaient sur Geekzone dans le forum leurs alternatives. N'hésitez pas, hein, si vous avez des plans secrets, faites partager, faites croquer les copains sur le forum de Geekzone, parce que moi pour l'instant j'ai rien vu de magique. En tout cas, si vous connaissez iTerm, si vous connaissez pas iTerm, si vous avez un Mac, allez-y, et si vous connaissez, trouvez-moi un équivalent sous Windows, merci.
Et puis t'as eu l'occasion de te frotter un peu à la nouvelle bêta de GOG Galaxy 2.0.
Oui,
alors, GOG ou GOG, je sais jamais.
C'est bien, je suis content que ça soit ton tour de le dire en premier, parce que je me fais avoir à chaque fois, je sais jamais le dire.
Moi, GOG Galaxy.
GOG, alors GOG, parce que chez nous c'est un peu compliqué quand même ce mot. GOG, ils ont fait leur premier pas avec la version 2.0 qui, je vous le rappelle, est censée devenir l'anneau qui les réunit tous. Enfin non, c'est pas l'anneau qui les réunit tous, hein, je suis désolé, pardon pour les fans de Tolkien, pardon aux familles, qui est donc un launcher pour vos jeux, qui, bah évidemment, son rôle de base, c'est de lancer les jeux de chez GOG, mais il est surtout censé réunir tous les produits, tous les jeux que vous avez achetés sur Steam, sur Epic, l'Epic Game Store, etc. Donc de devenir un launcher universel comme notre copain Playnight. C'est bien ça.
Ouais, c'est ça, Playnight. Y compris les chats, en fait, mais ça, c'est pas encore implémenté, j'imagine, alors, mais voilà. Ils annoncent ça aussi. Ouais.
Donc, comme pour le terminal Windows, et comme bah, c'est la vie maintenant, c'est notre vie, hein, c'est comme ça que ça se passe, c'est l'avenir, on essuie les plâtres en permanence. Donc, c'est une version bêta, complètement preview, absolument pas feature complète, comme disent les Américains, donc il manque plein de choses à l'intérieur, y compris et surtout donc toute la partie communautaire avec les listes d'amis qui sont censées être maintenant intégrées ensemble, etc. Ils ont des plans assez ambitieux, on l'avait déjà dit, hein. Mais moi pour l'instant, de ce que j'en ai vu, je suis très content parce que c'est quand même assez joli. La présentation par défaut vous dépaysera pas si vous avez déjà utilisé Playnight. Ils ont d'ailleurs le même problème quand un jeu sur plusieurs plateformes, c'est pas évident de savoir de quelle plateforme il est question. Ça m'énerve, et dans Playnight ça me saoule aussi. Ça c'est un truc qui devrait, il devrait y avoir un logo, tu vois, pour te dire directement de quelle plateforme est issu tel ou tel jeu. Quand tu l'as sur deux ou trois plateformes parce que t'es un abruti comme moi, ou juste journaliste, c'est un vrai souci, quoi. Donc moi je suis ça c'est le truc qui m'emmerde un peu. Après, pour tout le reste, ça marche très proprement, donc ça te permet d'installer le jeu directement depuis cette interface là ça te permet de le lancer, évidemment, c'est quand même le but. Et puis donc t'as un système de recherche, et t'as surtout un gros système de qualification qu'il n'y a pas dans Playnight, qui te permet d'afficher que les RPG, que les jeux de tir, etc. Donc je ne sais pas qui a fait la classification chez eux, je n'ai pas eu le temps de pousser pour voir si c'était bien propre et si le rangement était vraiment bien fait, mais en tout cas ça fonctionne pas mal. En revanche, l'interface, quand tu commences à te balader dans les settings, etc., je l'ai pas trouvé ultra intuitive. Alors c'est assez bizarre, c'est un peu comme il faut faire du back sans arrêt, t'as une espèce de l'impression d'être dans un espèce de navigateur web. Je suis pas ultra fan de la façon dont c'est mis en place pour l'instant. Alors c'est le début, hein, je l'ai utilisé 3 jours, je vais attendre de voir ça, on en reparlera, mais je vous tiendrai au courant dans le forum. Mais en tout cas, sur le papier, c'est quand même une initiative qu'on attendait tous. Ouais. Maintenant, j'ai remarqué en fait à la fin, mais il manque quand même un client. Je sais pas si ça représente beaucoup de monde, hein. Je doute que beaucoup de monde achète ces jeux dans Discord, mais il n'y a pas d'intégration Discord en fait. Donc,
d'accord. Je crois qu'il n'y a pas ça dans Playnight non plus. Hein.
Je crois que Discord, il n'y a pas d'API en fait. Enfin, ils n'ont pas proposé ce système-là. Donc déjà, ça en fait un qui fait chier, quoi. Quoi qu'il arrive, il en restera un. L'autre truc qui est quand même un petit peu pénible, c'est que quand tu es en train de, quand tu dois lancer un jeu et que tu n'as pas lancé le launcher, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu seras obligé d'avoir le launcher qui se lance et qui va se planquer en background. Ils peuvent évidemment pas faire sans le launcher officiel. Donc bon, c'est une solution. J'attends de voir la version finale, hein, mais moi j'ai peur que ça soit beaucoup d'efforts pour finalement un truc qui soit assez un gros sparadrap, on va dire. Maintenant, je leur souhaite que ça marche et que ça pousse les gens à acheter leur jeu chez eux, parce que c'est un launcher à la base que j'aimais bien, et puis c'est une boîte que j'aime beaucoup, donc je n'ai pas envie qu'il se plante.
Allez, on passe du côté de la culture avec deux petites news rapides. D'abord, la première pour vous annoncer la sortie officielle du Blu-ray d'Avengers Endgame, qui sortira donc en dématérialisé le 30 juillet et en Blu-ray le 13 août. On a eu la liste des features et des bonus qu'on pourra récupérer. Donc il y a plein de documentaires. Il y en a un qui est axé autour de Robert Downey Jr., un autre sur Captain America, un autre sur Black Widow, sur les frangins Rousseau, sur les femmes dans le MCU. Et puis donc on a appris la dénomination officielle de Thor, tu sais, le Thor un peu grassouillet de Endgame. Ouais. J'imagine que je ne spoil plus personne maintenant.
J'espère.
Donc son titre officiel, c'est Bro Thor. Donc voilà, il y a un documentaire sur Bro Thor. Il y a aussi 6 scènes supprimées, bien évidemment un gag reel et un commentaire audio des frangins Rousseau avec les scénaristes Christopher Marcus et Stephen McFeely. Donc voilà, ça sort le 30 juillet en démat et le 13 août en Blu-ray. Et puis une petite news musique pour les gens qui aiment bien les Boards of Canada, puisque le label Warp, qui est le label de Boards of Canada entre autres, hein, fête ses 30 ans cette année, et donc ils ont fait un stream le week-end dernier, je crois, sur une radio en ligne qui s'appelle NTS, et il y avait notamment un mix de 2 heures des Boards of Canada, un mix avec des petits morceaux qu'ils aiment bien, et puis aussi des petites exclusivités, des morceaux morceaux d'eux qu'on n'a jamais entendu. Et la bonne nouvelle, c'est que ce mix est disponible en ligne sur SoundCloud et sur YouTube. Je vous linkerai tout ça pour que vous puissiez aller écouter donc ce mix exclusif des Boards of Canada. On passe du côté de la tech, et ça, c'est une nouvelle qui me ravit, parce que ça va permettre de ne pas laisser le PC allumé tout le temps pour regarder ses films et ses séries. Le Raspberry Pi 4 est sorti.
Oui, le Raspberry Pi 4 que tout le monde attendait en 2020. Merci les mecs. Alors, tu vois, il y a des gens qui t'annoncent qu'ils vont sortir leur jeu à la fin du mois et qu'ils le sortent 15 ans après. Et bah, eux, c'est l'inverse. Ils ont pris tout le monde par surprise. C'est pas la première fois qu'ils font le coup. Hein. Mais donc, la fondation Raspberry qui s'occupe de ces petits ordinateurs, de ces petites cartes que tout le monde connaît. J'espère que j'ai pas besoin de réexpliquer ce qu'est un Raspberry Pi. Là, ils ont fait fort puisqu'ils ont balancé l'annonce. Bah voilà, c'est dispo. Tu peux l'acheter ici et tu peux l'avoir demain. Bonne journée. Donc, tout le monde était un peu surpris. Personne s'attendait à ça puisqu'ils avaient vraiment annoncé au mois de février qu'il ne faudrait pas s'attendre à l'avoir avant 2020. Donc bon, ça me fait un petit peu rire cette façon de faire, mais bon, pourquoi pas. Et cette version 4, bah, la deuxième surprise, c'est qu'elle est extrêmement puissante, puisque bon, voilà, bah, ils ont quand même annoncé un truc qui est trois fois plus costaud que la B+, enfin la Raspberry Pi 3 B+, qui est la dernière à être disponible, la dernière à être sortie, que j'ai acheté le mois dernier, évidemment, sinon c'est pas drôle.
Mais bon, qui était déjà pas mal, cela dit. Hein.
Elle est super bien, et pour ce que je fais, ça va largement suffire, mais faut, enfin, on parle de truc à 35€, donc c'est pas ouais, non plus la fin du monde, hein, pour upgrader, si vraiment vous en avez besoin. Donc cette bestiole, elle est dispo dès aujourd'hui, mais bah en fait vous pouvez la commander, puis bah là maintenant il va falloir attendre puisque évidemment les premiers stocks sont déjà partis, j'ai l'impression, et surtout qu'il y a une petite ruse sur cette nouveauté, sur cette nouvelle machine, c'est qu'il y a plusieurs configurations de mémoire possibles, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là vous pouvez la commander avec 1, 2 ou 4 gigas de RAM en fonction des usages que vous allez en faire. Donc je vois d'ici les gens qui font de l'émulation se frotter les mains, sachant que la version avec 4 gigas de RAM reste extrêmement accessible, hein, puisqu'elle coûte 59€ a priori, avec 49€ pour la version 2 gigas et toujours 35$, donc 38€ pour la version 1 giga, qui suffira pour plein de gens. Pour ce qui est des puces qui sont à l'intérieur cette fois, je vous laisse lire le papier de minimachine.net qui est très très complet sur le sujet et qui d'ailleurs donne des très bonnes informations et des très bons avis avec lesquels je suis d'accord sur l'usage du HDMI, parce que figure-toi que cette Pi 4 est capable de faire du bi-écran, mais pour ils ont mis des prises micro HDMI, donc c'est quand même un petit peu, enfin c'est pas le format le plus solide de la Terre, et c'est pas les câbles les plus courants, donc ça c'est un petit peu bête on va dire, et donc il revient sur exactement ce qu'on peut faire avec et tous les ports, etc, etc. Moi je veux juste calmer les ardeurs de tout le monde concernant la possibilité de faire des desktops avec ce genre de truc. Ça reste mais largement plus lent que même un i3 bas de gamme chez Intel. Alors évidemment c'est pas les mêmes tarifs, on est bien d'accord, hein, mais c'est faisable, mais ça va quand même pas être confortable, hein, faut pas rêver non plus. Bah, en revanche, bah, pour tous les usages des AirPods classiques, on commence à rentrer dans des trucs très 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 solides, donc vous allez pouvoir vous faire plaisir, mais bon, vous emballez pas, je vois plein de papiers qui sortent comme quoi oui c'est l'ordinateur pas cher et tout machin. Oui, vite fait quand même. Hein. C'est, dès que vous allez commencer à vouloir faire un truc un peu sévère, ça risque de ramouiller sévèrement. Donc je ne suis pas, hyper fan de cette façon de présenter la bestiole, mais bon, pourquoi pas. Si vous l'utilisez comme ordinateur principal ou d'appoint, parlez-en sur le forum. Moi, ça m'intéresse. Pour l'instant, j'ai essayé même avec une B+ à l'époque, c'était pas vraiment génial. Avec celle-là, je doute que ça soit beaucoup beaucoup mieux.
Et puis tu voulais nous parler, ça me surprend beaucoup, des trottinettes électriques.
Oui, en fait. Alors en fait pas du tout. Moi je veux pas vous en parler. Je voulais mettre en avant le travail de taré, bah, toujours de Mini Machine. Hein. Ouais. Big up à Mini Machine qui fait un boulot de ouf là-dessus, et Pierre Lecourt en fait qui gère ce site, qui a fait un dossier sur le bordel autour des trottinettes électriques et de tous les objets de déplacement individuels. Je sais plus comment on dit déjà. Là. Il le dit dans sa vidéo qui va être la dénomination officielle de toutes les trucs, les gyros. Toutes ces conneries là, et qui reprend en fait tout l'historique de pourquoi on en arrive à avoir des milliers de saloperies du genre sur les trottoirs de Paris, et l'impact, enfin en fait d'où est sorti le business déjà, et ça c'est hyper intéressant parce que moi j'avais pas non plus toutes les infos, et il fait toute une série de posts, et il en est au 4e si je dis pas de bêtises, je sais pas combien il en a prévu au total, mais pour justement décortiquer quel est le problème, d'où ça vient, où on va et dans quel état mettant en air. Et c'est vraiment pas jojo. C'est un peu du recyclage à la base de business, cette histoire de trottinette électrique. Et j'avoue que je sais pas comment ça va se terminer, mais à mon avis, mal pour certains fournisseurs et certaines boîtes qui font du free floating aussi.
Allez, on passe du côté d'Ubuntu qui a du mal à se débarrasser du 32 bits. Hein.
Ouais, alors ça, je l'ai fait extrêmement vite aussi parce qu'on est déjà très long cette semaine. En fait, tout bêtement, c'est que Ubuntu, ils se sont dit, mais plus personne se sert du 32 bits, il faut virer cette saloperie et passer en full 64 bits qu'on puisse enfin être sérieux. Et puis, ils n'avaient pas prévu deux, trois trucs. C'est que déjà, Wine ne fonctionne pas, donc l'émulateur Windows qui permet de faire tourner plein d'apps dans Linux, ne fonctionne pas en 64 bits. Donc ça, c'est un problème pour plein de gens. Du coup, ils se sont dit, ah, c'est chiant, mais on va bien trouver une solution. Et puis, derrière, ils ont eu Valve qui a fait, ça fonctionne pas non plus en 64 bits. Il faut du 32 bits pour notre architecture qui doit être basée aussi sur des émulations, une partie émulation qui n'est toujours pas dispo en 64. Donc, du coup, ils étaient en mode, on va plus supporter Ubuntu et puis, on va plus sortir nos jeux pour vous, désolé. Et du coup, là, les mecs de chez Ubuntu, ils ont fait, ah, pardon. on n'avait pas compris. Donc, ils sont un petit peu revenus sur leur pas et puis ils sont en train de chercher des solutions parce que clairement ils ne veulent pas continuer à supporter cette saloperie de 32 bits, mais ils vont trouver des solutions à base de sandbox et compagnie pour pouvoir faire tourner dans des containers si vous voulez les applications 32 bits qui vraiment continuent de faire chier. Je vous ai linké un papier de The Register sur le sujet, il y en a plein d'autres sur le net parce que c'est évidemment ça a fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Je vous laisse partager tout ça sur le forum si vraiment vous en avez des plus complets, mais on n'est pas sorti des orties parce que la problématique c'est qu'un jour il va bien falloir s'en débarrasser de ce 32 bits et c'est pas gagné et c'est un problème qu'on a aussi sur macOS puisque la prochaine version Catalina est full 64 bits et quand on lance Steam actuellement t'as un petit message qui te dit hey salut cette version est vraiment très vieille et va vraiment être très lente pour ton Mac bientôt et c'est une façon polie de te prévenir que dans la version de Catalina Steam pour l'instant il marche pas donc je ne sais pas du tout ce que Valve a prévu pour que est-ce qu'ils ont une version 64 bits un peu propre de prévu? Il serait temps, j'ai envie de dire.
Ouais. Et puis on va faire la transition. Enfin, la transition se fait toute seule, même puisque tu viens d'en parler avec l'annonce donc des bêtas publiques de tous les nouveaux OS du côté de chez Apple.
Voilà. Donc vous pouvez tous péter vos machines dans la joie et la bonne humeur. Oui. Alors je le rappelle, les bêtas publiques, c'est pas pour avoir macOS Catalina. Alors il y a iPadOS, iOS 13, tvOS 13. Et là vous vous dites génial, je vais les avoir en avance. Alors s'ils sont pas sortis officiellement, c'est parce qu'ils sont pas finis. Hein, d'accord les teubés. Je suis désolé, je suis obligé de râler, mais il y a plein de gens qui sont en train de faire chier les développeurs d'applications depuis le début de la semaine en mode genre oui mais mon app elle marche plus. Ben oui mais parce que t'as installé un truc qui est pas censé être public. Ils sont gentils un peu, mais ils prennent des risques Apple avec ces trucs là à chaque fois. Là moi j'ai plein d'applications qui marchent plus sur mon iPad. Sauf que moi j'ai vu des déclarations de journalistes, quand même renommés au début de la semaine pour me dire non mais là ça marche nickel, j'ai aucun problème. Alors les gars, c'est effectivement, tu vois pas les problèmes au bout de 3 minutes une fois que tu viens d'installer, mais au bout de 24 heures, j'avais déjà une liste assez élevée de petits soucis. Donc les bêtas, déjà macOS Catalina, vraiment, 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 je conseille pas sur votre machine principale. iPadOS, si vous pouvez pas du tout attendre comme moi, vous pouvez y aller, mais je vous préfère, moi mon iPad Pro, dans les soucis que j'ai repérés déjà dans cette première bêta, évidemment, le plus chiant, c'est d'avoir Face ID qui déconne. Donc pour déloquer mon iPad, des fois, il va falloir que je rentre le code parce qu'il a décidé de pas me reconnaître. C'est même pas qu'il me reconnaît pas, en fait. Il y a un bug au moment où il est censé ouvrir le truc. Donc, il le fait une fois sur deux, c'est un petit peu relou. Et puis, derrière, il y a des applications qui ne marchent pas du tout, genre Ulysse qui avait fait un mode splitté qui n'est pas compatible avec le nouveau mode splitté d'iPadOS. Donc, les développeurs sont un peu deck parce qu'ils avaient implémenté plein de trucs qui sont en fait implémentés officiellement maintenant. Mmh. Donc, ils sont obligés de revenir en arrière, ce qui les rend un petit peu salés, je pense. Et puis, derrière, évidemment, je comprends qu'on y aille. Moi, si je l'ai installé, c'est parce que iPadOS, qui peut enfin se connecter à mon NAS tout seul, c'est génial. J'ai enfin pu connecter une manette de jeu, une vraie, tu vois, une manette de PlayStation 4, une manette de Xbox One compatible Bluetooth, directement sur l'Apple TV et sur mon iPad. Et ça change la donne, parce que j'ai rejoué à des trucs que j'avais pas du tout... je les avais achetés et puis oubliés sur l'Apple TV. Et puis, là, d'un coup, je me rappelle qu'en fait, ça ferait une bonne console de jeu pour plein de gens. avec un vrai pad. Donc je vous ferai même une petite liste de jeux qui sont sympas et avec un vrai pad, et bah d'un coup on redécouvre tous ces trucs là. Mais bon, rien que le fait de pouvoir connecter enfin des devices en USB-C sur l'iPad Pro et de pouvoir travailler tranquillement, j'avoue que ça vaut la prise de risque. Mais par contre, je vous préviens, il y a vraiment plein d'applications qui vont déconner ou ne pas marcher du tout. Hein, Ulysse, c'est pas qu'il marche pas, marche mal, c'est qu'il se lance pas du tout. Donc attendez la bêta 2, la bêta 3, vous serez safe à mon avis dès fin juillet, en tout cas plus safe que maintenant.
Et c'est la fin de ce 95e épisode de Torréfaction, un épisode où on a souffert dans la chaleur, on va pouvoir rallumer les ventilos.
Ouais, je vais le remettre à fond, j'adore mon micro parce qu'en fait, tu l'entends pas, mais il oui, tourne non. un peu derrière moi et ça, c'est le bonheur. Ah, merci.
Allez, on va souffrir ce week-end encore, puisqu'apparemment, ils annoncent de nouveau la canicule samedi, demain donc, ça va être chouette. Moi, je pense voilà. que je vais les mettre dans une grotte ou dans un cinéma toute la journée.
C'est ça, parce que moi, et puis, là, quand on aime les jeux vidéo sur PC avec des cartes qui font chauffage d'appoint,
ça marche pas bien.
On n'est pas dans la bonne saison, là, les mecs, hein, je suis désolé, je pense que je vais jouer énormément sur l'iPad, puisque, bah, en plus, Dota Underlords, il est super bien sur iPad Pro.
Bah voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle sélection d'actu. D'ici là, bon week-end. Faites attention au soleil, ne prenez pas coup de soleil, et puis à la semaine prochaine. Ciao,
ciao, ciao. Avec ses mains, elle fait un espèce de... Ah putain, j'ai pas le nom. Avec ses mains, elle fait un... le truc pour choquer les gens, là, pour les réveils, quand ils font une crise cardiaque.
Un taser, hein.
Non, pff, un taser. En fait, tu réveilles les gens au taser, ouais. Non, les trucs avec les palettes, là, l'urgence, quoi. Un, deux, trois, bim.
C'est une très bonne question.
Le défibrillateur.
Un défibrillateur, oui.
Putain, j'ai été le chercher, moi, celui-là.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.